J'avais d'abord établi que la parole et la pensée, le génie des langues et les caractères des peuples, se suivaient d'un même pas. Je dois dire aussi que les langues se mêlent entre elles comme les peuples, et qu'après avoir été obscures comme eux, elles s'élèvent et s'ennoblissent avec eux. Une langue riche ne fut jamais celle d'un peuple ignorant et pauvre. Mais si les langues sont comme les nations, il est encore très vrai que les morts sont comme les hommes. Ceux qui ont dans la société une famille et des alliances étendues y ont aussi une plus grande consistance. C'est ainsi que les mots qui ont de nombreux dérivés et qui tiennent à beaucoup d'autres sont les premiers mots d'une langue et ne vieilliront jamais, tandis que ceux qui sont isolés ou sans harmonie tombent comme des hommes, sans recommandation et sans appui. Pour achever le parallèle, on peut dire que les uns et les autres ne valent qu'autant qu'ils sont à leur place. J'insiste sur cette analogie, afin de prouver combien le goût qu'on a dans l'Europe pour les Français est inséparable de celui qu'on a pour leur langue, et combien l'estime dont cette langue jouit est fondée sur celle que l'on sent pour la nation. Voyons maintenant si le génie et les écrivains de la langue anglaise auraient pu lui donner cette universalité qu'elle n'a point obtenue du caractère et de la réputation du peuple qui la parle. Opposons sa langue à la nôtre, sa littérature à notre littérature et justifions le choix de l'univers. S'il est vrai qu'il n'y eut jamais ni langage ni peuple sans mélange, il n'est pas moins évident qu'après une conquête, il faut du temps pour consolider le nouvel État ou bien fondre ensemble les idiomes et les familles des vainqueurs et des vaincus. Mais on est étonné quand on voit qu'il a fallu plus de 1000 ans à la langue française pour arriver à sa maturité. On n'en est pas moins quand on songe à la prodigieuse quantité d'écrivains qui ont fourmillé dans cette langue depuis le 5e siècle jusqu'à la fin du 16e, sans compter ceux qui écrivaient en latin. Quelques monuments qui s'élèvent encore dans cette cité d'oubli nous offrent autant de Français différents. Les changements et les révolutions de la langue étaient si brusques que le siècle où on vivait dispersait toujours de lire les ouvrages du siècle précédent. Les auteurs se traduisaient mutuellement, de demi-siècle en demi-siècle, de patois en patois, de vers en prose. Et dans cette longue galerie d'écrivains, il ne s'en trouve pas un qui n'ait cru fermement que la langue était arrivée pour lui à sa dernière perfection. Pasquier affirmait de son temps qu'il ne s'y connaissait pas ou que Ronsard avait fixé la langue française. À travers ces variations, on voit cependant combien le caractère de la nation influait sur elle. La construction de la phrase fut toujours directe et claire. La langue française n'eut donc que deux sortes de barbaries à combattre, celle des mots et celle du mauvais goût de chaque siècle. Les conquérants français, en adoptant les expressions celtes et latines, les avaient marquées chacune à son coin. On eut une langue pauvre et décousue, où tout fut arbitraire, et le désordre régna dans la disette. Mais quand la monarchie acquit plus de force et d'unité, il fallut refondre ces monnaies éparses et les réunir sous une empreinte générale, conforme d'un côté à leur origine et de l'autre au génie même de la nation, ce qui leur donna une physionomie double. On se vit une langue écrite et une langue parlée, et ce divorce de l'orthographe et de la prononciation, l'orthographe est une manière invariable d'écrire les mots afin de les reconnaître. C'est dans la latinité du Moyen-Âge qu'on voit notre orthographe et notre langue se former en partie. On mutilait le mot latin avant de le rendre français, ou on donnait à ce mot celte la terminaison latine. Existimare devient estimare. On eut pensare pour putare, grandite pour valde, menare pour conducere, frasco pour la gena, alpennis pour juger, beccus pour rostrum, etc. Pourquoi entendre le malade imaginaire? De là viennent dans les familles de mots ces irrégularités qui défigurent notre langue. Nous sommes infidèles et fidèles tour à tour à l'étymologie. Nous disons penser, penseux, penseur. Et tout à coup, putatif, supputé, imputé, etc. Des mots étroitement unis par l'analogie sont séparés par l'étymologie et réclament des pères différents, comme main et tact, œil et vue, nez, odorat, etc. Mais pour revenir à notre orthographe, on lui connaît trois inconvénients. D'employer d'abord trop de lettres pour écrire un mot, ce qui embarrasse sa marche. Ensuite, d'en employer qu'on pourrait remplacer par d'autres, ce qui lui donne du vague. Enfin, d'avoir des caractères dont elle n'a pas le prononcé et des prononcés dont elle n'a pas les caractères. C'est par respect, dit-on, pour l'étymologie qu'on écrit philosophie, PH et non philosophie, FI. Mais où le lecteur sait le grec ou ne le sait pas? S'il l'ignore, cette orthographe lui semble bizarre et rien de plus. Et s'il connaît cette langue, il n'a pas besoin qu'on lui rappelle ce qu'il sait. Les Italiens, qui ont renoncé dès longtemps à notre méthode et qui écrivent comme ils prononcent, n'en savent pas moins le grec, et nous ne l'ignorons pas moins malgré notre fidèle routine. Mais on a tant dit que les langues sont pour l'oreille. Un abus est bien fort quand on a si longtemps raison contre lui. Sans compter que nous ne sommes pas constamment fidèles aux étymologies, car nous écrivons fantôme, fantaisie, etc., et filtre ou filtre, PH ou F, etc. J'observerai cependant que les livres se sont fort multipliés et que les langues sont autant pour les yeux que pour l'oreille. La réforme est presque impossible. Nous sommes accoutumés à telle orthographe. Elle a servi à fixer les mots dans notre mémoire. Sa bizarrerie fait souvent toute la physionomie d'une expression et prévient dans la langue écrite les fréquentes équivoques de la langue parlée. Aussi, dès qu'on prononce un mot nouveau pour nous, naturellement, nous demandons son orthographe afin de l'associer aussitôt à sa prononciation. On ne croit pas savoir le nom d'un homme si on ne l'a pas vu par écrit. Je devrais dire encore que les peuples du Nord et nous avons altéré jusqu'à l'alphabet des Grecs et des Romains. Nous avons prononcé le en a, comme dans prudent, l'i en e, comme dans invincible. Et que les Anglais sont là-dessus plus irréguliers que nous encore. Mais qu'est-ce qui ignore ces choses? Il faut observer seulement qu'outre l'universalité des langues, il y en a une de caractère. Du temps de Pline, tous les peuples connus se servaient des caractères grecs. Aujourd'hui, l'alphabet romain s'applique à toutes les langues d'Europe. Et il dure encore. Enfin, le bon goût ne se développe pas tout entier que dans la perfection même de la société. La maturité du langage et celle de la nation arrivèrent ensemble. En effet, quand l'autorité publique est affermie, que les formes sont assurées, les privilèges confirmés, les droits éclaircis, les rangs assignés, quand la nation, heureuse et respectée, jouit de la gloire au dehors et de la paix et du commerce au dedans, lorsque dans la capitale un peuple immense se mêle toujours sans jamais se confondre, alors on commence à distinguer autant de nuances dans le langage que dans la société. La délicatesse des procédés amène celle des propos. Les métaphores sont plus justes, les comparaisons plus nobles, les plaisanteries plus fines. La parole étant le vêtement de la pensée, on veut des formes plus élégantes. C'est ce qui arriva aux premières années du règne de Louis XIV. Le poids de l'autorité royale fit rentrer chacun à sa place. On connut mieux ses droits et ses plaisirs. L'oreille, plus exercée, exigea une prononciation plus douce. Une foule d'objets nouveaux demandèrent des expressions nouvelles. la langue française fournit à tout et l'ordre s'établit dans l'abondance. Il faut donc qu'une langue s'agite jusqu'à ce qu'elle se repose dans son propre génie. Et ce principe explique un fait assez extraordinaire, c'est qu'au XIIIe et XIVe siècle, la langue française était plus près d'une certaine perfection. Voici des vers de Thibaut, comte de Champagne. « Ni empereur ni roi n'ont nul pouvoir, au prix d'amour. De ce bose vanté, ils peuvent bien donner de leur avoir. Terres et fiefs et fourbes pardonnés, mais amour peut homme de mort garder et donner joie qui dure. » Et ceux-ci, qui sont de l'an 1226, chacun pleure sa terre et son pays, quand il se part de ses joyeux amis. Mais il n'est nul congé, quoi qu'on en dise, si douloureux que d'amis et d'amis. On croit entendre voiture ou chapelle. Et comparez maintenant ces vers de Ronsard, qui peint la fabrique d'un vaisseau. Fait d'un art mestrier, au ventre creux et d'artifice prompt, d'un bec de fer leur aiguise le front. Ou ceux-ci, dans lesquels le grec lui échappe tout pur. Oh, que je suis Marie, que la muse Françoise ne peut dire ces mots ainsi que la grégeoise. Ossimore, dyspotine, oligocronien. Certes, je le dirais du sang valésien. Et ceux d'un de ses contemporains sur l'Alouette, guindés par Zéphyr, sublime en l'air vive et revire, et y déclic un joli cri, qui rit, guérit et tire lire des esprits mieux que je n'écris. Ces poètes, séduits par le plaisir que donne la difficulté vaincue, voulurent l'augmenter encore afin d'accroître leur plaisir. Et de là vinrent les vers monorimes et monosyllabiques, les échos, les rondeaux et les sonnets que Boileau a eu le malheur de tant louer. Tout leur art poétique roula sur cette multitude de petits poèmes qui n'avaient de recommandable que les bizarres difficultés dont ils étaient hérissés et qui sont presque tous inintelligibles. Vrai qu'elle ne fût au XVIe. Ces éléments s'étaient déjà incorporés. Ces mots étaient déjà assez fixes et la construction de ces phrases directes et régulières. Il ne manquait donc à cette langue que d'être parlée dans un siècle plus heureux, et ce temps approchait. Mais, contre tout espoir, la renaissance des lettres la fit tout à coup rebousser vers la barbarie. Une foule de poètes s'élevèrent dans son sein, tels que les Joneph, les Baïf et les Ronsard. Épris d'Homère et de Pindare, et n'ayant pas digéré les beautés de ces grands mondels, ils s'imaginèrent que la nation s'était trompée jusque-là, et que la langue française aurait bientôt le charme du grec, si on y transportait les mots composés, les diminutifs, les péjoratifs, et surtout la hardiesse des inversions, chose précisément opposée à son génie. Le ciel fut porte-flambeau, Jupiter lance-tonnerre, on eut des angelets et doucelets, on fit des vers sans rime, des hexamètres, des pentamètres. Les métaphores basses ou gigantesques se cachèrent sous un style entortillé. Enfin, ces poètes parlèrent grec en français, et de tout un siècle on ne s'entendit point dans notre poésie. C'est sur leurs sublimes échasses que le burlesque se trouva naturellement monté quand le bon goût vint apparaître. À cette même époque, les deux reines Médicis donnaient une grande vogue à l'italien, et les courtisans tâchaient de l'introduire de toutes parts dans la langue française. Cette irruption du grec et de l'italien la troubla d'abord, mais, comme une liqueur déjà saturée, elle ne put recevoir ces nouveaux éléments. Ils ne tenaient pas, on les vit tomber d'eux-mêmes. Les malheurs de la France, sous les derniers Valois, retardèrent la perfection du langage. Mais la fin du règne de Henri IV et celui de Louis XIII ayant donné à la nation l'avant-goût de son triomphe, la poésie française se montra d'abord sous les auspices de son propre génie. La prose plus sage ne s'en était pas écartée, comme elle, témoins Amyot, Montaigne et Caron. Aussi, pour la première fois peut-être, elle précède la poésie, qui la devance toujours. Il manque un trait à cette faible esquisse de la langue romance ou gauloise. On est persuadé que nos pères étaient tous naïfs, que c'était un bienfait de leur temps et de leurs mœurs, et qu'il est encore attaché à leur langage, si bien que certains auteurs en prennent aujourd'hui leur tournure afin d'être naïfs aussi. Ce sont des vieillards qui, ne pouvant parler en homme, bégayent pour paraître enfants. Le naïf qui se dégrade tombe dans le niais. Voici donc comment s'explique cette naïveté gauloise. Tous les peuples ont le naturel. Il ne peut y avoir qu'un siècle très avancé qui connaisse et sente le naïf. Celui que nous trouvons et que nous sentons dans le style de nos ancêtres l'est devenu pour nous. Il n'était pour eux que le naturel. C'est ainsi qu'on trouve tout naïf dans un enfant qui ne s'en doute pas. Chez les peuples perfectionnés et corrompus, la pensée a toujours un voile, et la modération, exilée des mœurs, se réfugie dans le langage, ce qui le rend plus fin et plus piquant. Lorsque, par une heureuse absence de finesse et de précaution, la phrase montre la pensée toute nue, le naïf paraît. De même, chez les peuples vêtus, une nudité produit la pudeur. Mais les nations qui sont nues sont chastes sans être pudiques, comme les Gaulois étaient naturels sans être naïfs. On pourrait ajouter que ce qui nous fait sourire dans une expression antique n'eut rien de plaisant dans son siècle, et que tel épigramme, chargé du sel d'un vieux mot, eût été fort innocente il y a 200 ans. Il me semble donc qu'il est ridicule, quand on n'a pas la naïveté, d'en emprunter les livrets. Nos grands écrivains l'ont trouvé dans leur âme, sans quitter leur langue. Et celui qui, pour être naïf, emprunte une phrase d'Amyot, demanderait pour être brave l'armure de Bayard. C'est une chose bien remarquable qu'à quelque époque de la langue française qu'on s'arrête, depuis sa plus obscure origine jusqu'à Louis XIII, et dans quelque imperfection qu'elle se trouve de siècle en siècle, elle a toujours charmé l'Europe, autant que le malheur donne des temps l'a permis. Il faut donc que la France ait toujours eu une perfection relative et certains agréments fondés sur sa position et sur l'heureuse humeur de ses habitants. L'histoire, qui confirme partout cette vérité, n'en dit pas autant de l'Angleterre. Les Saxons, l'ayant conquise, s'y établirent. Et c'est de leur idiome et de l'ancien jargon du pays que se forma la langue anglaise, appelée anglo-saxon. Cette langue fut abandonnée au peuple depuis la conquête de Guillaume jusqu'à Édouard III, intervalle pendant lequel la cour et les tribunaux d'Angleterre ne s'exprimèrent qu'en français. Mais enfin, la jalousie nationale s'était réveillée et on exila une langue rivale que le génie anglais repoussait depuis longtemps. On sent bien que les deux langues s'étaient mêlées malgré leur haine, mais il faut observer que les mots français qui émigrèrent en foule dans l'anglais et qui se fondirent dans une prononciation et une syntaxe nouvelles ne furent pourtant pas défigurés. Si notre oreille les méconnaît et nos yeux les retrouvent encore, tandis que les mots latins qui entraient dans les différents jargons de l'Europe furent toujours mutilés, comme les obélisques et les statues qui tombaient entre les mains des barbares. Cela vient de ce que les latins ayant placé les nuances de la déclinaison et de la conjugaison dans les finales des mots, nos ancêtres, qui avaient leurs articles, leurs pronoms et leurs verbes auxiliaires, tronquèrent ces finales qui leur étaient inutiles. Et les Italiens, les Français, les Espagnols, ayant adopté les vers auxiliaires de l'ancienne Celte, Les heureux composés du grec et du latin leur semblèrent des hiéroglyphes trop hardis. Ils aimèrent mieux ramper à l'aide du verbe auxiliaire et du participe passé et dire « j'aurais aimé » Kamawissem. Cette timidité des peuples modernes explique aussi la nécessité des articles et des pronoms. On sait que la distinction des cas, des genres et des nombres chez les Grecs et les Latins se trouve dans la variété de leur finale. Mais pour l'Europe moderne, cette différence réside dans les signes qui précèdent les verbes et les noms, et les finales sont toujours uniformes dans les noms et dans la plupart du temps du verbe. En y réfléchissant, on voit que les lettres et les mots sont des puissances connues, avec lesquelles on arrive sans cesse à l'inconnu, qui est la phrase ou la pensée. Et d'après cette idée algébrique, on peut dire que les articles et les pronoms sont des exposants placés devant les mots pour annoncer leur puissance. L'article « le », par exemple, dit d'avance qu'on va parler d'un objet qui sera du genre masculin et du nombre singulier. Ainsi, l'article devant le nom est une espèce de pronom, et le pronom devant le verbe est encore une autre sorte d'article. On a quelque peine à souffrir le début de tout nos grammairiens. Il y a, disent-ils, 8 parties d'oraison. Le verbe, l'interjection, le participe, le substantif, l'adjectif, etc. On voit seulement qu'ils ont voulu compter et classer tous les mots qui entrent dans une phrase et sans lesquels il n'y aurait pas de discours. Mais sans se perdre dans ces distinctions de l'école, ne serait-il pas plus simple de dire que tous les mots sont des noms, puisqu'ils servent toujours à nommer quelque chose? L'homme donna des noms aux objets qui le frappaient. Il nomma aussi les qualités dont ces objets étaient doués. Voilà deux espèces de noms, le substantif et l'adjectif, si on veut les appeler ainsi. Mais pour créer le verbe, il fallut revenir sur l'impression que l'objet ou ses qualités avaient faite en nous. Il fallut réfléchir et comparer. Et sur le premier jugement que l'homme porta, naquit le verbe. C'est le mot par excellence. C'est un lien universel et commun qui réunit dans nos idées les choses qui existent séparément hors de nous. C'est une perpétuelle affirmation pour le oui ou le non. Il rapproche les différentes images que présente la nature et en compose le tableau général. Sans lui, point de langue. Il est toujours exprimé ou sous-entendu. Est verbe unique dans toutes les langues, parce qu'il représente une opération unique de l'esprit. Verbe simple et primitif, parce que tous les autres ne sont que des déguisements de celui-là. Il se modifie pour se plier aux différents besoins de l'homme, suivant les temps, les personnes et les circonstances. Je suis, c'est-à-dire moi, est. Être est une prolongation indéfinie du mot est. J'aime, c'est-à-dire je suis aimant, etc. C'est une clé générale avec laquelle on trouve la solution de vite chaque état se placer à son rang. L'Angleterre brilla pour un moment de l'éclat d'Élisabeth et de Cromwell et ne sortit pas du pédantisme. L'Espagne épuisée ne put cacher sa faiblesse. Mais la France montra toute sa force et les lettres commencèrent à gloire. Si Ronsard avait bâti des chaumières avec des tronçons de colonnes grecques, Malherbe éleva le premier des monuments nationaux. Richelieu, qui affectait toutes les grandeurs, abaissait d'une main la maison d'Autriche et de l'autre attirait à lui le jeune Corneille en l'honorant de la jalousie. Ils fondaient ensemble ce théâtre où, jusqu'à l'apparition de Racine, l'auteur du Cid régna seul. Pressentant les accroissements de l'empire de la langue, il lui créa un tribunal afin de devenir par elle le législateur des lettres. À cette époque, une foule de génies vigoureux s'emparèrent de la langue française et lui firent parcourir rapidement toutes ses périodes, de Voiture jusqu'à Pascal et de Racan jusqu'à Boileau. Cependant, l'Angleterre, échappée à l'anarchie, avait repris ses premières formes et Charles II était paisiblement assis sur un trône teint du sein de son père. Shakespeare avait paru, mais son nom et sa gloire ne devaient passer les mers que 2 siècles après. Il n'était pas alors, comme il a été depuis, l'idole de sa nation et le scandale de notre littérature. Soit génie agreste et populaire, son humeur déplaisait aux princes et aux courtisans. Milton, qui le suivit, mourut inconnu. Sa personne était odieuse à la cour. Le titre de son poème rebuta, où ne goûta point des vers durs, hérissés de termes techniques, sans rime et sans harmonie. Et l'Angleterre apprit un peu tard qu'elle possédait un poète épique. Il y avait pourtant de beaux esprits et des poètes à la cour de Charles. Cowley, Rochester, Hamilton, Waller y brillaient. Et Shaftesbury hâtait les progrès de la pensée en épurant la prose anglaise. Cette faible aurore se perdit tout à coup dans l'éclat du siècle de Louis XV. Les beaux jours de la France étaient arrivés. Il y eut un admirable concours de circonstances. Les grandes découvertes qui s'étaient faites depuis 150 ans dans le monde avaient donné à l'esprit humain une impulsion que rien ne pouvait plus arrêter, et cette impulsion tendait vers la France. Paris fixa les idées flottantes de l'Europe et devint le foyer des étincelles répandues chez nous et chez tous les peuples. L'imagination de Descartes régna dans la philosophie, la raison de Boileau dans les vers. Bell plaça le doute au pied de la vérité. Bossuet tonna sur la tête des rois, et nous comptâmes autant de gens d'éloquence que de grands hommes. Notre théâtre, surtout, achevait l'éducation de l'Europe. C'est là que le grand Condé pleurait au vers du grand Corneille, et que Racine corrigeait Louis XIV. Rome tout entière parut sur la scène française, et les passions parlèrent leur langage. Nous eûmes aussi ce Molière plus comique que les Grecs, et le Télémaque plus antique que les ouvrages des anciens, et ce La Fontaine qui, ne donnant pas à la langue des formes si pures, lui prêtait des beautés plus incommunicables. Nos livres, rapidement traduits en Europe et même en Asie, devinrent les livres de tous les pays, de tous les goûts et de tous les âges. La Grèce, vaincue sur le théâtre, le fut encore dans les pièces fugitives qui volèrent de bouche en bouche et donnèrent des ailes à la langue française. Les premiers journaux qu'on vit circuler en Europe étaient français et ne racontaient que nos victoires et nos chefs-d'œuvre. C'est de nos académies qu'on s'entretenait et la langue s'étendait par leur correspondance. On ne parlait enfin que de l'esprit et des grâces françaises. Tout se faisait au nom de la France, et notre réputation s'accroissait de notre réputation. Aux productions de l'esprit se joignait encore celle de l'industrie. Des pompons et des modes accompagnaient nos meilleurs livres chez les étrangers, parce qu'on voulait être partout raisonnable et frivole comme en France. Il arriva donc que nos voisins, recevant sans cesse des meubles, des étoffes et des modes qui se renouvelaient sans cesse, manquèrent de termes pour les exprimer. Ils furent comme accablés sous l'exubérance de l'industrie française, si bien qu'ils prirent comme une impatience générale de l'Europe, et que, pour n'être plus séparés de nous, on étudia notre langue de tous côtés. Depuis cette explosion, la France a continué de donner au théâtre des habits, du goût, des manières, une langue, un nouvel art de vivre et des puissances inconnues aux États qui l'entourent, sorte d'empire qu'aucun peuple n'a jamais exercé. Et comparez-lui, je vous prie, celui des Romains, qui semèrent partout leur langue, et l'esclavage s'engraissèrent de sang et détruisirent jusqu'à ce qu'ils fussent détruits. On a beaucoup parlé de Louis XIV, je n'en dirai qu'un mot. Il n'avait ni le génie d'Alexandre, ni la puissance et l'esprit d'Auguste. Mais pour avoir su régner, pour avoir connu l'art d'accommoder ce coup d'œil, ces faibles récompenses dont le talent veut bien se payer, Louis XIV marche dans l'histoire de l'esprit humain à côté d'Auguste et d'Alexandre. Il fut le véritable Apollon du Parnasse français. Les poèmes, les tableaux, les marbres ne respirèrent que pour lui. Ce qu'un autre eût fait par politique, il le fit par goût. Il avait de la grâce, il aimait la gloire et les plaisirs, et je ne sais quelle tournure romanesque qu'il eut dans sa jeunesse remplit les Français d'un enthousiasme qui gagna toute l'Europe. Il fallut voir ses bâtiments et ses fêtes, et souvent la curiosité des étrangers soudoya la variété française. En formant à Rome une colonie de peintres et de sculpteurs, il faisait signer à la France une alliance perpétuelle avec les arts. Quelquefois, son humeur magnifique allait avertir les princes étrangers du mérite d'un savant ou d'un artiste caché dans leurs états, et il en faisait l'honorable conquête. Ainsi, le nom français et le sien pénétrèrent jusqu'aux extrémités orientales de l'Asie. Notre langue domina comme lui dans tous les traités, et quand il cessa de dicter des lois, elle garda si bien l'empire qu'elle avait acquis que ce fut dans cette même langue, origine de son ancien despotisme, que ce prince fut humilié vers la fin de ses jours. Ses prospérités, ses fautes et ses malheurs servirent également à la langue. Elle s'enrichit à la révocation de l'édit de Nantes de tout ce que pense perdait l'État. Les réfugiés emportèrent dans le Nord leur haine pour le prince et leur regret pour la patrie. Et ces regrets et cette haine s'exhalèrent en français. Il semble que c'est vers le milieu du règne de Louis XIV que le royaume se trouva à son plus haut point de grandeur relative. L'Allemagne avait des princes nuls, l'Espagne était divisée et languissante, l'Italie avait tout à craindre, l'Angleterre et l'Écosse n'étaient pas encore unies, la Prusse et la Russie n'existaient pas. Aussi l'heureuse France, profitant de ce silence de tous les peuples, triompha dans la paix, dans la guerre et dans les arts. Elle occupa le monde de ses entreprises et de sa gloire. Pendant près d'un siècle, elle donna à ses rivaux et les jalousies littéraires et les alarmes politiques et la fatigue de l'admiration. Enfin, l'Europe, lasse d'admirer et d'envier, voulut imiter. C'était un nouvel hommage. Des essaims d'ouvriers entrèrent en France et rapportèrent notre langue et nos arts qu'ils propagèrent. Vers la fin du siècle, quelques ombres se mêlèrent à tant d'éclats. Louis XIV, vieillissant, n'était plus heureux. L'Angleterre se dégagea des rayons de la France et brilla de sa propre lumière. De grands esprits s'élevèrent dans son sein. Sa langue s'était enrichie comme son commerce de la dépouille des nations. Pope, Addison et Dryden en adoucirent les sifflements, et l'anglais fut sous leurs plumes l'italien du Nord. L'enthousiasme pour Shakespeare et Milton se réveilla, et cependant Locke posait les bornes de l'esprit humain, trouvait la nature de la lumière et la loi de l'univers. Aux yeux du sage, l'Angleterre s'honorait autant par la philosophie que nous par les arts. Mais, puisqu'il faut le dire, la place était prise. L'Europe ne pouvait donner deux fois le droit d'aînesse, et nous l'avions obtenu, de sorte que tant de grands hommes, en travaillant pour leur gloire, illustrèrent leur patrie et l'humanité plus encore que leur langue. Supposons cependant que l'Angleterre eût été moins lente à sortir de la barbarie et qu'elle eût précédé la France. Il me semble que l'Europe n'en aurait pas mieux adopté sa langue. Sa position n'appelle pas les voyageurs, et la France leur sert toujours de passage ou de terme. L'Angleterre vient elle-même faire son commerce chez les différents peuples. Elle ne va point commencer chez elle. Or, celui qui voyage ne donne pas sa langue. Il prendrait plutôt celle des autres. C'est presque sans sortir de chez lui que le français a étendu la sienne. Supposons enfin que par sa position l'Angleterre ne se trouvât pas reléguée dans l'océan et qu'elle eût attiré ses voisins. Il est encore probable que sa langue et sa littérature n'auraient pu fixer le choix de l'Europe, car il n'est point d'objection un peu forte contre la langue allemande qui n'est encore de la force contre celle des Anglais. Les défauts de la mère ont passé jusqu'à la fille. Il est vrai aussi que les objections contre la littérature anglaise deviennent plus terribles contre celles des Allemands. Ces deux peuples s'excluent l'un par l'autre. Quoi qu'il en soit, l'événement a démontré que la langue latine était la vieille souche. C'était un de ces rejetons qui devait fleurir en Europe. On peut dire en outre que, si l'anglais a l'audace des langues à inversion, il en a l'obscurité, et que sa syntaxe est si bizarre que la règle y a quelquefois moins d'application que d'exception. On lui trouve des formes serviles qui étonnent dans la langue d'un peuple libre et la rendent moins propre à la conversation que la langue française, dont la marche est si leste et si dégagée. Ceci vient de ce que les Anglais ont passé du plus extrême esclavage à la plus haute liberté politique, et que nous sommes arrivés d'une liberté presque démocratique à une monarchie presque absolue. Les deux nations ont gardé les livrets de leur ancien État, et c'est ainsi que les langues sont les vraies médailles de l'histoire. Enfin, la prononciation de cette langue n'a ni la plénitude ni la fermeté de la nôtre. J'avoue que la littérature des Anglais offre des monuments de profondeur et d'élévation qui seront l'éternel honneur de l'esprit humain, et cependant, leurs livres ne sont pas devenus les livres de tous les hommes. Ils n'ont pas quitté certaines mains. Il a fallu des essais et de la précaution pour n'être pas rebuté de leur nom, de leur goût, de leur ton et de leur forme. Accoutumé au crédit immense qu'il a dans les affaires, l'anglais semble porter cette puissance fictive dans les lettres et sa littérature en a contracté un caractère d'exagération opposé au bon goût. Elle se sent trop de l'isolement du peuple et de l'écrivain. C'est avec un ou deux sensations que quelques Anglais ont fait un livre. Le désordre leur a plu, comme si l'ordre leur eût semblé trop près de je ne sais quelle servitude. Aussi leurs ouvrages, qu'on ne lit pas, s'enfuient, sont trop souvent dépourvus de charme, et le lecteur y trouve toujours la peine que l'écrivain ne s'est pas donnée. Mais le français, ayant reçu des impressions de tous les peuples de l'Europe, a placé le goût dans les opinions modérées, et ses livres composent la bibliothèque du genre humain. Comme les Grecs, nous avons eu toujours, dans le temple de la gloire, un autel pour les grâces, et nos rivaux les ont trop oubliés. On peut dire, par supposition, que si le monde finissait tout à coup pour faire place à un monde nouveau, ce n'est point un excellent livre français qu'il faudrait lui léguer, afin de lui donner de notre espèce humaine une idée plus heureuse. À richesse égale, il faut que la sèche raison cède le pas à la raison ornée. Ce n'est point l'aveugle amour de la patrie ni le préjugé national qui m'ont conduit dans ce rapprochement des deux peuples. C'est la nature et l'évidence des faits. Hé ! Quelle est la nation qui loue plus franchement que nous? N'est-ce pas la France qui a tiré la littérature anglaise du fond de son île? N'est-ce pas Voltaire qui a présenté Locke et même Newton à l'Europe? Nous sommes les seuls qui imitions les Anglais, et quand nous sommes là de notre goût, nous y mêlons leurs caprices. Nous faisons entrer une mode anglaise dans l'immense tourbillon des nôtres, et le monde l'adopte au sortir de nos mains. Il n'en est pas ainsi de l'Angleterre. Quand les peuples du Nord ont aimé la nation française, imité ses manières, exalté ses ouvrages, les Anglais se sont tus, et ce concert de toutes les voix n'a été troublé que par leur silence. Il me reste à prouver que, si la langue française a conquis l'Empire par ses livres, par l'humour et par l'heureuse position du peuple qui la parle, elle le conserve par son propre génie. Ce qui distingue notre langue des langues anciennes et modernes, c'est l'ordre et la construction de la phrase. Cet ordre doit toujours être direct et nécessairement clair. Le français nomme d'abord le sujet du discours, ensuite le verbe, qui est l'action, et enfin l'objet de cette action. Voilà la logique naturelle à tous les hommes. Voilà ce qui constitue le sens commun. Or, cet ordre si favorable, si nécessaire au raisonnement, est presque toujours contraire aux sensations qui nomment le premier l'objet qui frappe le premier. C'est pourquoi tous les peuples, abandonnant l'ordre direct, ont eu recours aux tournures plus ou moins hardies, selon que leurs sensations ou l'harmonie des mots l'exigeaient. Et l'inversion a prévalu sur la terre, parce que l'homme est plus impérieusement gouverné par les passions que par la raison. Le français, par un privilège unique, est seul resté fidèle à l'ordre direct, comme s'il était tout raison. Et on a beau, par les mouvements les plus variés et toutes les ressources du style, déguiser cet ordre, il faut toujours qu'il existe. Et c'est en vain que les passions nous bouleversent et nous sollicitent de suivre l'ordre des sensations. La syntaxe française est incorruptible. C'est de là que résulte cette admirable clarté, en essentiel de notre langue. Ce qui n'est pas clair n'est pas français. Ce qui n'est pas clair n'est pas encore anglais, est encore anglais, italien, grec ou latin. Pour apprendre les langues à l'inversion, il suffit de connaître les mots et leur régime. Pour apprendre la langue française, il faut encore réunir l'arrangement des mots. On dirait que c'est d'une géométrie tout élémentaire, de la simple ligne droite, et que ce sont les courbes et leurs variétés infinies qui ont présidé aux langues grecques et latines. La nôtre règle est conduit la pensée. Celle-là se précipite et s'égare avec elle dans le labyrinthe des sensations et suivent tous les caprices de l'harmonie. Aussi furent-elles merveilleuses pour les oracles, et la nôtre les eut absolument décriées. Il est arrivé de là que la langue française a été moins propice et moins propre à la musique et au vers qu'aucune langue ancienne ou moderne. Car ces deux arts vivent de sensations, la musique surtout, dont la propriété de donner de la force à des paroles sans verve et d'affaiblir les expressions fortes. Preuve incontestable qu'elle est elle-même une puissance à part et qu'elle repousse tout ce qui veut partager avec elle l'empire des sensations. Corphée redit sans cesse « J'ai perdu mon Eurydice !» La sensation grammaticale d'une phrase tant répétée sera bientôt nulle, et la sensation musicale là toujours croissant. Ce n'est point, comme on l'a dit, parce que les mots français ne sont pas sonores que la musique les repousse. C'est parce qu'ils offrent l'ordre et la suite quand le chant demande le désordre et l'abandon. La musique doit bercer l'âme dans le vague et ne lui présenter que des motifs. Malheur à celle dont on dira qu'elle a tout défini. Les accords plaisent à l'oreille par la même raison que les saveurs et les parfums plaisent au goût et à l'odorat. Mais si la rigide construction de la phrase gêne la marche du musicien, l'imagination du poète est encore arrêtée par le génie circonspect de la langue. Les métaphores des poètes étrangers ont toujours un degré de plus que les nôtres. Ils serrent le style de plus près, et leur poésie est plus haute en couleur. Il est généralement vrai que les figures orientales étaient folles, que celles des Grecs et des Latins ont été hardies, et que les nôtres sont simplement justes. Il faut donc que le poète français plaise par la pensée, par une élégance continue, par des mouvements heureux, par des alliances de mots. C'est ainsi que les grands maîtres n'ont pas laissé de cacher d'heureuses hardiesses dans les tissus d'un style clair et sage. Et c'est de l'artifice avec lequel ils ont su déguiser leur fidélité au génie de leur langue que résulte tout le charme de leur style. Ce qui fait croire que la langue française, sobre et timide, serait encore la dernière des langues si la masse de ces bons écrivains ne l'eût poussé au premier rang en forçant son naturel. Un des plus grands problèmes qu'on puisse proposer aux hommes est cette constance de l'ordre régulier dans notre langue. Je conçois bien que les Grecs et même les Latins, ayant donné une famille à chaque mot et de riches modifications à leur finale, se soient livrés aux plus hardies tournures pour obéir aux impressions qu'ils recevaient des objets. Tandis que dans nos langues modernes, l'embarras des conjugaisons et l'attirail des articles, la présence d'un nom mal apparenté ou d'un verbe défectueux, nous font tenir sur nos gardes pour éviter l'obscurité. Mais pourquoi, entre les langues modernes, la nôtre est-elle trouvée seule, si rigoureusement asservie à l'ordre direct? Serait-il vrai que par son caractère, la nation française ait souverainement besoin de clarté? Tous les hommes ont ce besoin, sans doute, et je ne croirais jamais que dans Athènes et dans Rome, les gens du peuple aient usé de fortes aversions. On voit même leurs plus grands écrivains se plaindre de l'abus qu'on en faisait en vers et en prose. Ils sentaient que l'inversion était l'unique source des difficultés et des équivoques dans leur langue fourmille, parce qu'une fois l'ordre du raisonnement sacrifié, l'oreille et l'imagination, ce qu'il y a de plus capricieux dans l'homme, restent maîtresses du discours. Aussi, quand on lit Démétrius de Phalère, est-on frappé des éloges qu'il donne à Thucydide pour avoir débuté dans son histoire par une phrase de construction toute française. Cette phrase était élégante et directe à la fois, ce qui arrivait rarement, car toute langue accoutumée à la licence des inversions ne peut plus porter le joug de l'ordre sans perdre ses mouvements et sa grâce. Mais la langue française, ayant la clarté par excellence, a dû chercher toute son élégance et sa force dans l'ordre direct. L'ordre et la clarté ont dû surtout dominer dans la prose, et la prose a dû lui donner l'empire. Cette marche est dans la nature. Rien n'est en effet comparable à la prose française.
Il y a des pièges et des surprises dans les langues à inversion. Le lecteur reste suspendu dans une phrase latine comme un voyageur devant des routes qui se croisent. Il attend que toutes les finales l'aient averti de la correspondance des mots. Son oreille reçoit et son esprit, qui n'a cessé de décomposer pour composer encore, résout enfin le sens de la phrase comme un problème. La prose française se développe en marchant et se déroule avec grâce et noblesse. Toujours sûre de la construction de ses phrases, elle entre avec plus de bonheur dans la discussion des choses abstraites et sa sagesse donne de la confiance à la pensée. Les philosophes l'ont adoptée parce qu'elle sert de flambeau aux sciences qu'elle traite et qu'elle accompagne, s'accommode également, et de la frugalité didactique et de la magnificence qui convient à l'histoire de la nature. On ne dit rien en vers qu'on ne puisse très souvent exprimer aussi bien dans notre prose. Et cela n'est pas toujours réciproque. Le prosateur tient plus étroitement sa pensée et la conduit par le plus court chemin, tandis que le versificateur laisse flotter les rênes et va où la rime le pousse. Notre prose s'enrichit de tous les trésors de l'expression. Elle poursuit le vers dans toutes ses hauteurs et ne laisse entre elle et lui que la rime. Étant commune à tous les hommes, elle a plus de juges que la versification, et sa difficulté se cache sous une extrême facilité. Le versificateur enfle sa voix, s'arme de la rime et de la mesure, et tire une pensée commune du sentier vulgaire. Mais aussi, que de faiblesse ne cache pas l'art des vers. La prose accuse le nu de la pensée. Il n'est pas permis d'être faible avec elle. Selon Denis d'Halicarnasse, il y a une prose qui vaut mieux que les meilleurs vers, et c'est elle qui fait lire les ouvrages de longue haleine, parce qu'elle seule peut se charger des détails
et que la variété de ces périodes lasse moins que le charme continu de la rime et de la mesure. Et qu'on ne croit pas que je veuille par là dégrader les beaux vers. L'imagination par la prose, mais la poésie par l'imagination. La raison elle-même a plus d'une route, et la raison en vers est admirable. Mais le mécanisme du vers fatigue, sans offrir à l'esprit des tournures plus hardies, dans notre langue surtout, où les vers semblent être les débris de la prose qui les a précédés. Tandis que chez les Grecs, sauvages, plus harmonieusement organisés que nos ancêtres, les vers et les dieux régnèrent longtemps avant la prose et les rois. Aussi peut-on dire que leur langue fut longtemps chantée avant d'être parlée, et la nôtre a jamais dénué le prosodie, ne s'est dégagée qu'avec peine de ses articulations rocailleuses. De là nous est venue cette rime, tant reprochée à la versification moderne, et pourtant si nécessaire pour lui donner cet air de chant qui la distingue de la prose. Au reste, les anciens n'eurent-ils pas le retour des mesures, comme nous celui des sons? Et n'est-ce pas ainsi que tous les arts ont leurs rimes, qui sont les symétries? Un jour, cette rime des modernes aura de grands avantages pour la postérité, car il s'élèvera des scoliastes qui compileront laborieusement toutes celles des langues mortes, et comme il n'y a presque pas un mot qui n'est passé par la rime, ils fixeront par là une sorte de prononciation uniforme et plus ou moins semblable à la nôtre, ainsi que par les lois de la mesure, nous avons fixé la valeur des syllabes chez les Grecs et les Latins. Quoi qu'il en soit de la prose et des vers français, quand cette langue traduit, elle explique véritablement un auteur. Mais les langues italiennes et anglaises, abusant de leurs inversions, se jettent dans tous les moules que le texte leur présente. Elles se calquent sur lui et rendent difficulté pour difficulté. J'en veux pour preuve que d'avanzati. Quand le sens de Tacite se perd, comme un fleuve qui disparaît tout à coup sous la terre, le traducteur se plonge et se dérobe avec lui. On les voit ensuite reparaître ensemble. Ils ne se quittent pas l'un l'autre, mais le lecteur les perd souvent tous les deux. La prononciation de la langue française porte l'empreinte de son caractère. Elle est plus variée que celle des langues du Midi, mais moins éclatante. Elle est plus douce que celle des langues du Nord, parce qu'elle n'articule pas toutes ses lettres. Le son de « le » muet, toujours semblable à la dernière vibration des corps sonores, lui donne une harmonie légère qui n'est qu'à elle. Si on ne lui trouve pas les diminutifs et les mignardises de la langue italienne, son allure est plus mâle. Dégagé de tous les protocoles que la bassesse inventa pour la vanité et la faiblesse pour le pouvoir, elle n'en est plus faite pour la conversation. Lien des hommes et charme de tous les âges. Et puisqu'il faut le dire, elle est de toutes les langues la seule qui ait une probité attachée à son génie. Sûre, sociale, raisonnable, ce n'est plus la langue française, c'est la langue humaine. Et voilà pourquoi les puissants sont appelés dans leurs traités. Elle y règne depuis les conférences de Nimègue. Et désormais, les intérêts des peuples et des volontés des rois reposeront sur une base plus fixe. On ne sèmera plus la guerre dans les paroles de paix. Aristippe, ayant fait naufrage, aborda dans une île inconnue. Et voyant des figures de géométrie tracées sur le rivage, il s'écria que les dieux ne l'avaient pas conduit chez des barbares. Quand on arrive chez un peuple et qu'on y trouve la langue française, on peut se croire chez un peuple poli. Leibniz cherchait une langue universelle, et nous l'établissions autour de lui. Ce grand homme sentait que la multitude des langues était fatale au génie, et prenait trop sur la brièveté de la vie. Il est bon de ne pas donner trop de vêtements à sa pensée. Il faut, pour ainsi dire, voyager dans les langues, et après avoir savouré le goût des plus célèbres, se renfermer dans la sienne.
Si nous avions les littératures de tous les peuples passés, comme nous avons celles des Grecs et celles des Romains, ne faudrait-il pas que tant de langues se réfugiassent dans une seule par la traduction ? Ce sera vraisemblablement le sort des langues modernes, et la nôtre leur offre un port dans le naufrage. L'Europe présente une république fédérative composée d'empires et de royaumes, et la plus redoutable qui ait jamais existé. On ne peut en prévoir la fin, et cependant, la langue française doit encore lui survivre. Les États se renverseront, et notre langue sera toujours retenue dans la tempête par deux ancres, sa littérature et sa clarté, jusqu'au moment où, par une de ces grandes révolutions qui remettent les choses à leur premier point, la nature vienne renouveler ses traités avec un autre genre humain. Mais sans attendre l'effort des siècles, cette langue ne peut-elle pas se corrompre ? Une telle question mènerait trop loin. Il faut seulement soumettre la langue française au principe commun à toutes les langues. Le langage est la peinture de nos idées, qui à peur tour sont des images plus ou moins étendues de quelque partie de la nature. Et comme il existe chez deux mondes, pour chaque homme en particulier, l'un hors de lui qui est le monde physique et l'autre au-dedans qui est le monde moral ou intellectuel, il y a aussi deux styles dans le langage, le naturel et le figuré. Le premier exprime ce qui se passe hors de nous et dans nous par des causes physiques. Il compose le fond des langues, s'étend par expérience et peut être aussi grand que la nature. Le second exprime ce qui se passe dans nous et hors de nous. Mais c'est l'imagination qui le compose des emprunts qu'elle fait au premier. Le soleil brûle, le marbre est froid, l'homme désire la gloire. Voilà le langage propre ou naturel. Le cœur brûle de désir, la crainte le glace, la terre demande la pluie. Voilà le style figuré qui n'est que le simulacre de l'autre et qui double ainsi la richesse des langues. Comme il tient à l'idéal, il paraît plus grand que la nature. L'homme le plus dépourvu d'imagination ne parle pas longtemps sans tomber dans la métaphore. Or, c'est ce perpétuel mensonge de la parole, c'est le style métaphorique qui porte un germe de corruption. Le style naturel ne peut être que vrai, et quand il est faux, l'erreur est de fait, et nos sens la corrigent tôt ou tard. Mais les erreurs dans les figures et dans les métaphores annoncent de la fausseté dans l'esprit et un amour de l'exagération qui ne se corrige guère. Une langue vient donc à se corrompre lorsque, confondant les limites qui séparent le style naturel du figuré, on met de l'affectation à outrer les figures et à rétrécir le naturel, qui est la base pour changer d'ornement superflu l'édifice de l'imagination. Par conséquent, il n'est point d'art ou de profession dans la vie qui n'ait fourni des expressions figurées au langage. On dit la trame de la perfidie, le creuset du malheur. Et on voit que ces expressions sont comme à la porte de nos ateliers et s'offrent à tous les yeux. Mais quand on veut aller plus avant et qu'on dit « Cette vertu qui sort du creuset n'a pas perdu tout son alliage, il lui faut plus de cuisson. » Ah, lorsqu'on passe de la trame de la perfidie à la navette de la fourberie, on tombe dans l'affectation. C'est ce défaut qui perd les écrivains des nations avancées. Ils veulent être neufs et ne sont que bizarres. Ils tourmentent leur langue pour que l'expression lui donne la pensée, et c'est pourtant celle-ci qui doit toujours amener l'autre. Ajoutons qu'il y a une seconde espèce de corruption, mais qui n'est pas à craindre pour la langue française. C'est la bassesse de figure. Ronsard disait « Le soleil perruqué de lumière, le voile s'enfle à plein ventre. » Ce défaut précède la maturité des langues et disparaît avec la politesse. Par tous les mots et toutes les expressions dont les arts et les métiers sont enrichis les langues, il semble qu'elles aient peu d'obligation aux gens de cour et du monde. Mais si c'est la partie laborieuse d'une nation qui crée, c'est la partie oisive qui choisit et qui règne. Le travail et le repos sont pour l'une, le loisir et les plaisirs pour l'autre. C'est au goût dédaigneux, c'est à l'ennui d'un peuple d'oisif que l'art a dû ses progrès et ses finesses. On sent en effet que tout est bon pour l'homme de cabinet et de travail, qui ne cherche le soir qu'un délassement dans les spectacles et les chefs-d'œuvre des arts. Mais pour les âmes excédées de plaisir et le bas lassé de repos, il faut sans cesse des attitudes nouvelles et des sensations toujours plus exquises. Peut-être est-ce ici le lieu d'examiner ce reproche de pauvreté et d'extrême délicatesse si souvent fait à la langue française. Sans doute, il est difficile d'y tout exprimer avec noblesse. Mais voilà précisément ce qui constitue, en quelque sorte, son caractère. Les styles sont classés dans notre langue, comme les sujets dans notre monarchie. Des expressions qui conviennent à la même chose. Et c'est à travers cette hiérarchie des styles que le bon goût sait marcher. On peut ranger nos grands écrivains en deux classes. Les premiers, tels que Racine et Boileau, doivent tout un grand goût et un travail obstiné. Ils parlent d'un langage parfait dans ses formes, sans mélange, toujours idéal, toujours étranger au peuple qui les environne. Ils deviennent des écrivains de tous les temps et perdent bien peu dans la postérité. Les seconds, nés avec plus d'originalité, tels que Molière ou La Fontaine, révèlent leurs idées de toutes les formes populaires, mais avec tant de sel, de goût et de vivacité qui sont à la fois les modèles et les répertoires de leur langue. Cependant, leur couleur, plus locale, s'efface à la longue. Le charme du style mêlé s'affadit ou se perd, et ces auteurs ne sont pour la postérité qui ne peut les traduire que les écrivains de leur nation. Il serait donc aussi injuste de juger de l'abondance de notre langue par le Télémaque ou Cinna seulement que de la population de la France par le petit nombre appelé la bonne compagnie. J'aurais pu examiner jusqu'à quel point et par combien de nuances les langues passent et se dégradent en suivant le déclin des empires. Mais il suffit de dire qu'après s'être élevé d'époque en époque jusqu'à la perfection, c'est en vain qu'elles en descendent. Elles y sont fixées par les bons livres, et c'est en devenant langues mortes qu'elles se sont réellement immortelles. Le mauvais latin du Bas-Empire n'a-t-il pas donné un nouveau lustre à la belle latinité du siècle d'Auguste? Les grands écrivains ont tout fait. Si notre France cessait d'en produire, la langue de Racine et de Voltaire deviendrait une langue morte. Et si les Esquimaux nous offraient tout à coup 12 écrivains du premier ordre, il faudrait bien que les regards de l'Europe se tournassent vers cette littérature des Esquimaux. Terminons. Il est temps, l'histoire déjà trop longue de la langue française. Le choix de l'Europe est expliqué et justifié. Voyons d'un coup d'œil comment, sous le règne de Louis XV, il a été confirmé et comment il se confirme encore de jour en jour. Louis XIV, se survivant à lui-même, voyait commencer un autre siècle et la France ne s'était exposée qu'un moment. La philosophie de Newton attira d'abord nos regards et Fontenelle nous la fit aimer en la combattant. Astre doux et paisible, il régna pendant le crépuscule qui sépara les deux règnes. Son style, clair et familier, s'exerçait sur les objets profonds et nous déguisait notre ignorance. Montesquieu vint ensuite montrer aux hommes les droits des uns et les usurpations des autres, le bonheur possible et le malheur réel. Pour écrire l'histoire grande et calme de la nature, Buffon emprunta ses couleurs et sa majesté. Pour en fixer les époques, il se transporta dans des temps qui n'ont point existé pour l'homme. Et là, son imagination rassembla plus de siècles que l'histoire n'en a gravé dans ses annales. De sorte que ce qu'on appelait le commencement du monde, et qui touchait pour nous aux ténèbres d'une éternité antérieure, se trouve placé par lui entre deux suites d'événements, comme entre deux foyers de lumière. Désormais, l'histoire du globe précédera celle de ses habitants. Partout, on voyait la philosophie mêler ses fruits aux fleurs de la littérature, et l'encyclopédie était annoncée. C'est l'Angleterre qui avait tracé ce vaste bassin où doivent se rendre nos diverses connaissances, mais il fut creusé par des mains françaises. L'éclat de cette entreprise rejaillit sur la nation et couvrit le malheur de nos armes. En même temps, un roi du Nord faisait à notre langue l'honneur que Marc Aurèle et Julien firent à celle des Grecs. Il associait son immortalité à la nôtre. Frédéric voulut être loué des Français comme Alexandre des Athéniens. Au sein de tant de gloire parut le philosophe de Genève. Ce que la mort morale avait jusqu'alors enseigné aux hommes, il le commanda, et son impérieuse éloquence fut écoutée. Rénal donnait enfin aux deux mondes le livre où sont pensés, pesés les crimes de l'un et les malheurs de l'autre. C'est là que les puissances de l'Europe sont appelées tour à tour au tribunal de l'humanité pour y frémir des barbaries exercées en Amérique, au tribunal de la philosophie pour y rougir des préjugés qu'elle laisse encore aux nations, et au tribunal de la politique pour y entendre leurs véritables intérêts fondés sur le bonheur des peuples. Mais Voltaire régnait depuis un siècle et ne donnait de relâche ni à ses admirateurs, ni à ses ennemis. L'infatigable mobilité de son âme de feu l'avait appelé à l'histoire fugitive des hommes. Il attacha son nom à toutes les découvertes, à tous les événements, à toutes les révolutions de son temps, et la renommée s'accoutuma à ne plus parler sans lui. Ayant caché le despotisme de l'esprit sous des grâces toujours nouvelles, il devint une puissance en Europe et fut pour elle le Français par excellence, lorsqu'il était pour les Français l'homme de tous les lieux et de tous les siècles. Il joignit enfin l'universalité de sa langue, son universalité personnelle. Et c'est un problème de plus pour la postérité. Ces grands hommes nous échappent, il est vrai. Mais nous vivons encore de leur gloire, et nous la soutiendrons puisqu'il nous est donné de faire dans le monde physique les pas de géants qu'ils ont faits dans le monde moral. L'airain vient de parler entre les mains d'un Français, et l'immortalité que les livres donnent à notre langue, les Ottomanes vont la donner à la prononciation. C'est en France et à la face des nations que deux hommes se sont trouvés entre le ciel et la terre, comme s'ils eussent rompu le contrat éternel que tous les corps ont fait avec elles. Ils ont voyagé dans les airs, suivi des cris de l'admiration et des alarmes de la reconnaissance. La commotion qu'un tel spectacle a laissée dans les esprits durera longtemps. Et si, par ces découvertes, la physique poursuit ainsi l'imagination dans ses derniers retranchements, il faudra bien qu'elle abandonne ce merveilleux, ce monde idéal d'où elle ne se plaisait à charmer et à tromper les hommes. Il ne restera plus de la poésie que le langage de la raison et des passions. Cependant, l'Angleterre, témoin de nos succès, ne les partage point.
sa dernière guerre avec nous la laisse dans la double éclipse de la littérature et de sa prépondérance. Et cette guerre a donné à l'Europe un grand spectacle. On y a vu un peuple libre conduit par l'Angleterre à l'esclavage et ramené par un jeune monarque à la liberté. L'histoire de l'Amérique se réduit désormais à trois époques, égorgée par l'Espagne, opprimée par l'Angleterre et sauvée par la France.